Bonsoir, c'est Agnès, IDFM Radio, toute la culture que j'aime pour cette rentrée. Je vous souhaite une très bonne année 2025, qu'elle soit porteuse de sérénité, de joie et de belles sorties culturelles évidemment. Pour cette émission de rentrée, je vais vous faire découvrir un trio de musiciens qui interprètent Claude Nougaro. Cela se passe au studio Hébert. C'est magnifique. Puis nous irons découvrir le Brésil à travers l'exposition de la peintre Tarsila do Amaral, magnifique peinture au musée du Luxembourg. Et enfin nous irons à la rencontre de l'autrice comédienne, notre amie Flore Grimaud, qui va nous parler de sa pièce sur l'amour. Nous sommes septembre au théâtre de la Reine Blanche. Un programme de rentrée pour vous donner des idées de sortie. Je vais donc recevoir le chanteur Laurent Malo, qui interprète avec ses deux musiciens tribu Nougaro. Avant cela, écoutons justement une des chansons de leur concert, la fameuse « Quatre boules de cuir » de Claude Nougaro, revue à leur manière.
De cuir tourne dans la lumière de ton œil électrique, box, box, ô déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens, moi le jeune puncher, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime, mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Ô déesse de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière, box, box, il faut être vainqueur. Boule de cuir sur quatre pieds de guerre, bombarde le plexus, box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion, je vais te faire voir qui des deux est champion. Quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient. Et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin vient me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire, box, comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir, quatre boules de cuir, box.
Voilà, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Et je reçois un chanteur étonnant, Laurent Malo. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, Laurent Malo, vous êtes chanteur, comédien, metteur en scène. Nous allons parler de Tribu Nougaro en ce moment au studio Héberto. Alors, vous avez un punch mais incroyable, et c'est une manière de redécouvrir les chansons de notre Nougaro, poète chanteur. Alors, vous reprenez ces titres les plus célèbres, mais également des plus confidentiels, avec une mise en scène assez intimiste et joyeuse. Vous êtes accompagné de Franck Stecker au piano, Christophe De Villers à la contrebasse. Il ne s'agit pas seulement d'un hommage, mais j'ai envie de dire d'une fête, d'une célébration, d'un clin d'œil à Nougaro. Alors, première question, Laurent Malo, pourquoi tribu Nougaro? Vous êtes de la même tribu ou tribute?
Non, ben c'était un petit peu ça, c'était de jouer sur le jeu de mots tribute, en disant justement que ce n'était pas un tribute, mais qu'on faisait partie de la tribu Nougaro. Voilà. L'idée, c'est aussi de, évidemment, derrière ça, de dire que on essaye de ne faire aucun mimétisme et aucune copie conforme de Nougaro, ce qui est impossible. Mais par contre, effectivement, on se sent appartenir à cette même famille et à cette filiation.
Et comment vous est venue cette idée? Bon, vous êtes un interprète connu, hein, dans le milieu, dans l'univers de la chanson française. Comment vous est venue cette idée? Alors, il y a quelques années déjà, hein, cette idée justement de faire une célébration à Claude Nougaro.
Bien, c'est ce que je dis un peu au début du spectacle, et c'est la vérité, je ne mens pas. C'est-à-dire que c'est mon chanteur un peu fétiche, celui que j'écoute depuis que je suis tout petit et que je ne cesse de redécouvrir avec toujours autant d'étonnement et autant de bonheur. Et effectivement, j'ai eu le besoin et l'envie à un moment de m'attaquer à cette œuvre en essayant d'être respectueux justement de l'œuvre. Encore une fois, de ne pas tomber dans une imitation et d'essayer, un peu comme vous l'avez dit, puisque effectivement on mélange des chansons un peu connues du grand public et aussi des chansons peu connues, en essayant de faire découvrir ou redécouvrir cette œuvre que l'on trouve majeure. Et effectivement, si le public à l'issue du spectacle a envie de replonger dans l'œuvre colossale de Nougaro, et ben on a gagné notre pari.
Oui, alors la particularité de ce spectacle, c'est la mise en scène de Xavier Lacouture avec la voix off de Claude Nougaro, des medleys, des morceaux a cappella, des moments où vous êtes avec micro, d'autres sans, des moments où vous faites participer le public. Comment avez-vous eu tous ces enregistrements de Claude Nougaro?
Bah ça, on a pioché un petit peu dans les archives de l'INA et dans les archives des interviews. Et puis au fur et à mesure de l'écoute de ces archives, c'est en fait aussi ce qui a permis de choisir certaines chansons et d'en écarter malheureusement d'autres. Alors effectivement, en 1h15, 1h20, on ne peut pas retracer toute l'œuvre majeure de Nougaro, mais on a essayé effectivement de choisir des morceaux significatifs par rapport à cette narration et cette voix off, et puis aussi encore une fois de choisir des morceaux que le public connaît et que le public connaît moins. Et puis un peu de toutes les époques aussi.
Oui, on vient d'entendre.
C'est un petit peu le cahier des charges, quoi.
Ouais, on vient d'entendre 4 boules de cuir. Hein, ouais. Ça, voilà.
Et vous le chantez bien, dites donc.
Oui, enfin oui, formidable.
Ah, j'ai trouvé une doublure, je suis très content.
Oui, voilà. Enfin voilà, je vais venir sur scène aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'on, votre manière d'interpréter fait qu'on redécouvre les paroles, parce que finalement, 4 boules de cuir, on la chantonne, mais c'est sur la boxe.
Ouais, absolument. Eh ben, en tout cas, c'est un grand compliment que vous me faites. Et effectivement, si le public qui a à la sortie du spectacle me dit « Ah, mais j'avais pas entendu cette chanson-là de cette manière-là, ou je n'avais pas compris, ou en tout cas eu toute l'intensité du texte, parce que effectivement, c'est des chansons qu'on a entendu beaucoup, et au fur et à mesure, j'ai l'impression que quand on entend ces chansons-là un peu, qui font partie de notre mémoire collective, on a peut-être tendance à oublier le sens profond. Et l'idée aussi, c'était de faire redécouvrir évidemment la musicalité, mais aussi la grande poésie de Claude Nougaro. Et je pense que plus largement, c'est un peu le rôle de l'interprète d'essayer de donner un autre angle ou une autre vision, ou en tout cas d'essayer de faire entendre les œuvres d'une autre manière, pour que le public dise « Ah mais oui, effectivement, c'est un autre angle, c'est une autre voix qu'il porte, c'est une autre manière de chanter, donc on redécouvre forcément. » Mais ça se passe aussi plus largement dans la musique classique, dans la danse, dans le théâtre. Le fait qu'un nouvel interprète ou qu'un metteur en scène ou qu'un chef d'orchestre s'empare d'une œuvre parfois centenaires ou très connus, ou en tout cas, voilà, mais c'est pour lui donner un éclairage différent. Et j'essayais modestement d'appliquer ça à la chanson et à Claude Nougaro.
Oui, alors vous interprétez dans ce spectacle des titres comme « Au Toulouse »,« Armstrong », voilà, comme je disais tout à l'heure, des célèbres, mais également des plus confidentiels. Je pense à « Marcia Martienne ».
Ouais.
C'est une magnifique chanson, mais que le public ne connaît pas forcément.
Ouais, absolument, absolument. C'est oui, c'est ça. Il y a à peu près. Et puis quand c'est des chansons plus connues, j'essaye aussi, pas de leur tordre le cou, parce qu'on essaie de vraiment de respecter l'œuvre. Mais par exemple Toulouse, qui est très connue, j'ai choisi. Et ça, c'est venu au fur et à mesure de l'exploitation du spectacle. On a choisi de la faire parler, chanter, presque parler. Et là aussi, ça redonne le sens du texte. Et puis, sur les chansons moins connues, comme Marcia Martienne, comme la chanson, comme la danse, bah effectivement, d'essayer d'offrir ça au public et que les gens disent, mais en fait, il y a tout un pan de l'œuvre de Claude Nougaro qu'on ne connaît pas. Marcia Martienne, puisque vous en parliez, oui, c'est une très belle chanson d'amour qui dit en substance, je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, quoi. C'est-à-dire que le souvenir de ta présence quand tu es ailleurs m'envahit encore plus que quand tu es auprès de moi, quoi. C'est une des subtilités poétiques, évidemment, du génie qu'était Claude Nougaro.
Claude Nougaro, hein, je le rappelle, disparu il y a 20 ans. Voilà. Ouais. Et ces chansons sont marquées finalement par le sens du rythme et sa manière de mêler le jazz, la poésie. Quelle est celle que vous préférez interpréter parmi la dizaine de titres?
Question très difficile. Je ne sais pas si je saurais vous répondre ça. Je trouve que effectivement, vous en parliez tout à l'heure. Le fait que Xavier Lacouture ait eu cette idée de faire trois medleys, en fait, un medley brésilien, un medley africain et un medley américain. Je trouve par exemple que le medley africain est pas trop mal réussi et qu'on redécouvre aussi sur trois chansons très différentes qui du coup avec ce montage là peuvent avoir presque une autre lumière ou un autre écho. Ça, j'avoue que je suis assez content qu'on ait trouvé cette manière un peu originale de faire réécouter des chansons. Voilà, j'aime bien le medley africain. Je trouve qu'il est,
oui,
en tout cas, c'est assez jubilatoire à chanter.
Oui, et il reprend trois titres, hein, Laurent.
Ouais, il reprend
l'amour,
même quatre,
mm-hmm.
Si. L'amour sorcier, locomotive d'or.
Et Paris.
Ah oui, non, trois, c'est ça, et Paris Mai. Ouais,
et Paris Mai. Donc c'est comme une petite création, finalement, hein,
en fait, c'était de retrouver de faire un montage, parce que les chansons ne sont pas en entier, mais de faire un montage de ces trois chansons, alors qui sont effectivement dans la période africaine, qui ont cette consonance musicale africaine, mais qui effectivement, du coup, du fait de ce montage, se répondent un peu autrement, quoi.
Oui, et puis il y a cette chanson a cappella.
Alors voilà, ouais, il y a la chanson a cappella qui est le medley américain. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu nouveau. Ça, c'est on l'a mis en place pour le studio Héberto. En fait, les gens nous disaient souvent à l'issue du spectacle qu'il leur manquait Nouga York, parce que Nouga York, c'est le titre qui est vraiment le plus connu du grand public, parce que c'est le titre qui a fait revenir Nougaro sur le devant de la scène. Et puis nous, on s'est un peu creusé la tête parce qu'on ne voyait pas comment exploiter ce titre-là avec une originalité, surtout dans la nomenclature musicale dans laquelle nous sommes. Donc on a eu cette idée, de dire, tiens, on refait un medley avec Nouga York en exergue, mais aussi avec d'autres morceaux de ces deux albums américains. Et puis c'était aussi une autre manière de puisqu'on le fait complètement a cappella et que c'est le seul morceau qu'on fait totalement a cappella, c'était aussi encore une autre manière de célébrer Claude Nougaro,
oui, oui.
En donnant encore un autre son au public, effectivement, puisque vous l'avez dit, Christophe de Villers et Franck Stecker sont évidemment pianistes et contrebassistes, mais jouent de plusieurs instruments aussi, donc accordéon, trompette, trombone, ce qui donne aussi au public le, le, l'occasion d'écouter un peu une palette de sons assez différents.
Ouais, la trompette de Franck est sublime, magnifique.
Je transmettrai.
Et le trombone de Christophe, et voilà, et je trouve qu'il y a une intensité à ce moment-là. Alors c'est un bugle, cette espèce de xylophone coloré.
Non, c'est je vais perdre le mot, vous allez voir.
Un xylophone,
c'est un marimba. Marimba.
Oh, formidable.
Voilà, marimba. Donc c'est comme un xylophone. Hein, c'est comme un xylophone, sauf que c'est en bois et que c'est un instrument plus typique de la musique africaine. Voilà.
Oui. Et en effet, ça nous permet de découvrir une palette d'instruments. Et vous formez vraiment un trio, hein, avec vos deux compères,
vos deux
musiciens.
Oui, oui, oui. Et puis en plus, c'est effectivement comme il joue très bien un peu de tous les instruments, c'est très très difficile de les remplacer. Et puis c'était vraiment l'idée de départ de dire que bon, effectivement, je suis le porteur du puisque c'est moi qui ai la parole, je suis le porteur du projet et des chansons, mais effectivement de former vraiment un trio plus qu'un chanteur accompagné par des musiciens.
Ouais, ouais. Donc c'est le concert Tribu Nougaro au studio Héberto, c'est le lundi à 19h, hein, donc là lundi, mardi 21h, tarif de 10 à 30 euros, studio Héberto, métro Villiers. Alors l'album bien sûr existe, Tribu Nougaro, formidable, on peut vous écouter avec bonheur, il est sorti en 2022. Uh-huh. Et le spectacle, quand même, je le rajoute, a déjà été joué à Avignon, hein, il y a quelques années,
ouais,
puis repris en 2021 en tournée, mais c'est la première grosse série à Paris, finalement, hein, Laurent.
C'est la première grande série parisienne de ce spectacle-là, grâce à un producteur formidable qui s'appelle Pierre Bonnier, et qui nous a permis effectivement de nous installer pour une longue période, puisqu'on est jusqu'au 25 février, tous les lundis et mardis, pour une longue période à Paris, et c'est ce rendez-vous est merveilleux.
Très bien, merci. Merci beaucoup, Laurent.
C'est
Laurent
moi qui Malo. Vous remercie.
Hein, je rappelle, donc, c'est Tribune Nougaro, avec vous-même, Laurent Malo, au chant. Franck, ouais, Stecker, piano et multiples magnifiques instruments. Christophe de Villers, contrebasse. Et on va écouter tout de suite le titre 5 de l'album, c'est le medley Brésil. Voilà, merci beaucoup Laurent Malo.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, merci beaucoup.
Au revoir.
Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant, toi qui ris avec tes larmes, ou toi qui pleures avec tes dents, viens visiter l'Occident. Ici les chanteurs de charme sont morts depuis bien longtemps. Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant, toi qui ris avec tes larmes, en perlant dedans tes cils, débarque avec ton Brésil. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe, enlève les grains. Tu vas nous jouer l'étude, la douce étude du chagrin. Tu vas nous toucher un brin, ta guitare plénitude, débarrasse-nous de nos liens. Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe, enlève les grains. Ta guitare plénitude, caresse l'huile nombril, débarque avec ton Brésil. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Serre-moi la main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Claude Nougaro, enfin interpréter le trio Nougaro qui interprétait Médée Brésil. Alors justement, ça tombe bien puisque je me dirige vers une exposition sur le Brésil avec la commissaire d'exposition Cecilia Braschi. Bonjour, bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Cecilia Braschi, vous êtes docteur en histoire de l'art, commissaire de l'exposition Tarsila do Amaral, qui se passe actuellement et jusqu'au 2 février au musée du Luxembourg. Bah, très honorée de vous avoir sur notre antenne. Alors, je vais faire une petite introduction. Je vais parler un peu de cette peintre, finalement méconnue en Europe, en France. Alors, Tarsila do Amaral, c'est une peintre brésilienne qui est née en 1886, décédée en 1973, qui est très très connue au Brésil, moins en Europe. Et le musée du Luxembourg à Paris présente une rétrospective de 150 de ses œuvres et documents. Et est-ce que c'est la première exposition en France, Cécilia?
Pas tout à fait la première exposition, puisque dans le cadre de l'année croisée culturelle France-Brésil en 2005, il y avait une exposition à la Maison de l'Amérique latine sur les années parisiennes de Tarsila do Amaral. C'est néanmoins la première rétrospective qui retrace toute son œuvre, donc des années 20 jusqu'aux années 60. Et d'ailleurs, c'est la première, peut-être, rétrospective tout court, puisque les expositions, même à l'étranger, il y en a eu beaucoup au Brésil et récemment aussi aux États-Unis, n'ont pas couvert la totalité de sa carrière, s'arrêtant le plus souvent aux années 30. Donc, c'est une découverte aussi par le public brésilien qui a accouru nombreux vers cette exposition à Paris, d'ailleurs. C'est assez étonnant l'enthousiasme qu'il y a aussi chez les Brésiliens à Paris pour cette exposition de cette icône de l'art moderne brésilien.
Oui, alors c'est une peintre centrale pour le modernisme brésilien. Comme je le disais tout à l'heure, elle est très connue au Brésil, mais est-elle aussi célèbre justement en France et en Europe?
Voilà, c'est ça le paradoxe. Elle est extrêmement connue en Brésil, très peu en France. Et c'est étonnant au vu de l'importance que Paris a eue dans sa formation artistique, du temps qu'elle a passé ici dans les années 20, notamment entre 1920 et 1929. Elle a fait des allers-retours sans arrêt entre São Paulo, qui était donc sa ville d'origine, et Paris. Elle a côtoyé des grandes personnalités de la culture française, ou plutôt européenne, parce qu'à l'époque, Paris était vraiment le berceau de tous les artistes internationaux. Donc elle côtoie Léger, Sandrars, Brancusi, le couple Delaunay, et Stravinsky, des musiciens, des artistes, des écrivains, et elle sait dialoguer vraiment ces deux cultures, l'européenne et la brésilienne, et elle essaye de définir un modèle d'art brésilien qui puisse dialoguer avec ses interlocuteurs européens, et inversement, elle a été vraiment une passeuse, comme on dit aujourd'hui. Elle a aussi fait connaître au Brésil l'art moderne européen, et elle a été parmi les premières à le faire avec sa collection d'art et ses conférences.
Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement son trait, son dessin, sa peinture? Est-ce que c'est la rondeur à la Fernand Léger, à la Botero? Est-ce que c'est son trait limpide, ses couleurs, ses gros personnages, ses couleurs vives? C'est quand même assez proche de Fernand Léger, non? Qu'en pensez-vous?
Oui, alors Fernand Léger était l'un de ses maîtres à Paris, et c'est vrai que ce chiffre stylistique est assez reconnaissable chez elle aussi, mais elle a créé vraiment un style propre à elle, très reconnaissable, qui se nourrit de plusieurs références françaises, mais qui a cette conscience, vraiment, quand elle arrive à Paris et qu'elle te dit le cubisme, notamment, elle le fait parce qu'elle a un projet brésilien. de créer un langage éminemment brésilien. Donc elle s'approprie ces différents codes avec la conscience que c'est juste une sorte de méthode pour atteindre son style personnel à elle et son vocabulaire authentique quelque part. Et c'est vraiment ce qu'elle arrive à faire, parce que aujourd'hui au Brésil, son style, il est vraiment iconique et reconnaissable. Donc elle a créé son style à elle, mais bien sûr il n'y a pas de, d'ailleurs le mouvement anthropophage dont elle participe et dont elle est à l'origine, même en 1928, parle justement de ça, de cette capacité de la culture brésilienne de s'approprier, de dévorer justement l'anthropophagie, veut dire cannibalisme. Donc métaphoriquement, les Brésiliens dévorent et s'approprient toutes les sources locales et étrangères pour créer quelque chose d'original. Donc effectivement, on peut y reconnaître beaucoup de sources, mais jamais au premier degré, toujours réélaborer, réinterpréter et transformer.
On a l'impression qu'elle a voulu, qu'elle a un peu oscillé entre un Brésil populaire, authentique, coloré, mais également un réalisme social plus sombre. Et une vie militante.
Il y a eu deux phases dans sa carrière. Ce Brésil un peu populaire qu'elle essaie de s'approprier, et qui d'ailleurs, il faut le souligner, ce n'était pas du tout ses origines, parce que c'était une femme de la haute bourgeoisie brésilienne qui vient d'une famille très aisée, très cultivée, très francophile d'ailleurs, parce que la culture française était très présente dans chez les aristocrates brésiliens de l'époque. Mais le projet du modernisme brésilien est aussi celui de s'approprier de toutes les sources qui composent la culture brésilienne pour recomposer un pays à la fois du point de vue social et culturel. Il n'y a rien de plus difficile, parce que c'est un pays extrêmement complexe, morcelé, avec une histoire aussi de violence coloniale, de subordination et de entre les catégories et les parties de la société. Donc c'est vraiment un grand enjeu, mais c'est tout à fait l'ambition des modernistes que de raconter un Brésil moderne, unitaire et harmonieux. Et donc pour ce faire, effectivement, elle puise dans la culture populaire, dans la culture autochtone, elle étudie tous les motifs de l'art précolonial et de la population noire aussi, dans un moment très complexe aussi de l'histoire du Brésil, parce que c'est la fin de l'abrogation de l'esclavage intervient au Brésil 2 ans après la naissance de Tarsila do Amaral. Donc vous imaginez bien le contexte culturel auquel elle se trouve et toutes les paradoxes qu'elle doit affronter aussi dans sa peinture.
Oui. Est-ce qu'on sait comment elle a pu aller à Paris dans les années 1920-25? Comment ça s'est déclenché? Comment elle a pu rencontrer tout d'un coup Blaise Cendrars, Cocteau, Picasso? On sait qu'elle a été un peu le déclencheur. Est-ce que c'est son mari Oswald?
Alors, en fait, elle était, comme je vous le disais, elle grandit baignée de culture française, mais plutôt la culture française 19e qui vraiment formait tous les intellectuels brésiliens de l'époque avant le modernisme. Donc le voyage à Paris, si vous voulez, c'était un peu une étape obligée pour tout artiste qui entreprenait cette carrière. Donc elle commence effectivement avec des études très classiques à l'Académie Julien notamment, et quand elle revient en 1920, à la fin de 1922, c'est après un événement majeur au Brésil qui est la Semaine d'art moderne, qui est peut-être le premier mouvement d'avant-garde qui se déclenche à Sao Paulo en février 1922. Et donc quand elle revient avec Oswald de Andrade, qui est ce poète écrivain brésilien qui est son compagnon, avec qui tout au long des années 20, elle produit tout un univers presque à quatre mains, très synergique. Lui, il est écrivain, elle est peintre, elle travaillent vraiment en grande syntonie tous les deux. Ils arrivent donc à Paris en la fin de 1922, début 1923. Ils s'introduisent à ce monde culturel, effectivement, par le biais de Sandrars, qui leur était présenté par Paulo Prado, qui était un grand mécène brésilien installé à Paris. Et Sandrars est un grand admirateur du Brésil. Donc, en fait, on a ce double regard. Eux, ils s'intéressent à l'Europe, mais Sandrars, il est très fasciné par le Brésil, dans cette quête d'exotisme aussi, qui était très à la mode dans le Paris des années 20. Et Sandrars, d'ailleurs, les accompagnera plus tard, en 1924, dans ce voyage qu'ils définissent comme la redécouverte du Brésil. C'est-à-dire qu'avec un nouveau regard éloigné depuis l'Europe, ces artistes peuvent aussi redécouvrir autrement leur pays et aller chercher des nouvelles sources en gardant en tête ce qui peut intéresser les Européens, mais aussi ce qu'ils n'ont jamais eux-mêmes capté de leur culture en habitant le pays. C'est souvent comme ça, en fait, les artistes qui voyagent gagnent aussi ce regard décalé sur leur pays qui finalement finit par enrichir leur travail. Et donc voilà, la présence de Sandrars, c'est intéressant à plusieurs égards, pour les introduire en France, mais aussi pour les accompagner dans ce nouveau regard sur leur propre pays.
Oui, elle était vraiment dans le courant avant-gardiste des années 1920. Est-ce qu'on sait quand elle s'est un peu éloignée du cubisme?
Voilà, après, oui, effectivement, vous parliez tout à l'heure de cette phase sociale, comme on dit, dans les années 30. Donc, il faut savoir que 1929 est une coupure dans sa carrière à cause de la crise boursière qui lui fait perdre toutes ses propriétés, à cause de la séparation de Oswald Andrade, à cause d'un nouveau gouvernement plus autoritaire qui s'instaure au Brésil, et par le fait qu'elle adhère aux idées marxistes et communistes qui sont très mal perçues par le nouveau gouvernement. Et donc c'est vraiment un basculement de tout point de vue, et son style aussi change. On a à celui qu'on appelle le réalisme social, qui fait propre aussi les codes de l'art de propagande soviétique. Elle entreprend un voyage en Russie, justement, en Union soviétique, qui la fascine complètement. Elle adhère aussi au modèle du muralisme mexicain, qui est un art foncièrement démocratique et populaire, l'art mural qui doit parler à tout le monde, donc avec une ambition véritablement sociale et militante. Donc ça marque vraiment c'est une œuvre des années 30, même si c'est toujours son style qui est derrière, parce que même dans les œuvres des années 30, 40, on reconnaît quelques traits issus du cubisme de Léger ou un gigantisme de personnages qui vient de sa phase anthropophage. Donc c'est toujours Tarsila do Amaral, mais son style évolue au fil du temps.
Au fil du temps, très bien. Merci beaucoup Cécilia Brachki. Je vous rappelle, vous êtes commissaire de l'exposition qui a lieu actuellement sur le Brésil, exposition de la peintre Tarsila do Amaral au musée du Luxembourg. C'est jusqu'au 2 février. Donc, chers auditeurs, je vous recommande vraiment d'aller découvrir cette exposition magnifique. En plus, on est au centre du jardin du Luxembourg. Voilà, exposition de Tarsila do Amaral. Sa peinture est caractérisée par des paysages aux couleurs vives, avec des personnages gigantesques, à la Botero, à la Fernand Léger. Merci beaucoup, Cécilia Brachki.
Merci à vous.
Merci. On écoute tout de suite, on fait une pause musicale et on écoute la chanson d'Hélène interprétée par le duo mythique Romy Schneider, Alain Delon. Merci.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil là-haut
IDFM, 98FM.
Nous venons d'entendre la chanson d'Hélène, et oui, chanson d'Hélène interprétée par Romy Schneider, Michel Piccoli, magnifique chanson, nous sommes septembre, et j'ai fermé ma chambre, tu ne m'aimes plus. Alors, nous sommes septembre, chers auditeurs, c'est aussi une pièce de théâtre, écrite par Flore Grimaud, justement, que je reçois. Bonsoir, Flore.
Bonsoir, Agnès.
Nous sommes septembre, se joue à partir du 30 janvier, oui, au Théâtre de la Reine Blanche à Paris, dans le 18e. Chers auditeurs, réservez déjà vos places pour Nous sommes septembre. Flore Grimaud, vous êtes une figure dans l'univers du théâtre contemporain et classique. Vous avez débuté, je le rappelle, avec Hans-Peter Klaus, puis vous avez participé à la grande aventure des Tréteaux de France avec Marcel Maréchal. Alors, au cinéma, vous tournez avec des réalisateurs, on pourrait en citer quelques-uns, Xavier Duringer, Éric Toledano. Au théâtre, vous avez joué dans de nombreuses pièces. Vous avez écrit 5 pièces d'ailleurs, car oui, vous êtes autrice également, comédienne, autrice. Nous sommes septembre étant la toute dernière née, oui, votre dernière écriture, dernière création. Il s'agit d'un texte onirique, j'ai envie de dire une ode dédiée à l'amour. L'amour, celui qui ne dure pas. Donc dans ce spectacle contemporain, en toile de fond, plusieurs histoires d'amour qui s'entrecroisent. Alors, il y a 2 comédiens sur scène, vous et Manuel, on va en parler après. Donc plusieurs couples, dont un couple mythique, vous allez nous en dire plus. Nous sommes septembre. Revenons un petit peu au titre de la pièce et de la fameuse chanson interprétée par la sublime Romy Schneider avec Michel Piccoli. Et pourtant, dans la pièce, il est question plutôt de Romy Schneider et Alain Delon, couple mythique. Alors, vous nous expliquez ?
Oui. Alors, Romy, moi, je l'ai connue dans les années où elle c'était une grande star. Et puis, j'étais chez la copine de ma grand-mère, Espérance, qui avait un prénom. Mes parents divorçaient, donc c'était un moment un peu particulier. Et puis, je suis tombée, Romy venait de mourir, sur un Paris Match. Et Alain Delon, le jour de sa mort, lui a écrit une lettre qui a été diffusée dans Paris Match. Oui, même s'il s'était quitté, puisqu'Alain et Romy avaient été amoureux, ça avait été un premier amour, malgré tout, ils étaient restés amis, ils étaient restés. Alain l'avait appelé en Allemagne pour venir tourner La Piscine, ce fameux film que j'ai vu. Et voilà, l'amour inconditionnel existait. Contrairement à celui de mes parents qui se déchiraient, je me suis rendu compte qu'on pouvait, même si on se séparait, rester amis ou rester en lien. Et ça m'a porté, du coup, ce couple est devenu un peu un couple iconique. J'ai vu La Piscine, j'ai vu Rocco, et je me suis un peu identifiée, comme certaines personnes le font maintenant avec Beyoncé ou je ne sais qui, ou avec la Vierge Marie. Et voilà, ils m'ont porté, et j'ai eu envie d'écrire ce texte-là. Je m'y étais pris déjà il y a quelques années, mais là, je me suis dit, maintenant, vas-y, écris, et à la fois sur ton enfance, sur le sud, sur la séparation, même moi, les séparations que j'ai eues dans ma vie, puisque moi-même j'ai vécu des... Comment on fait, Agnès, quand on aime, je crois que je ne suis pas la seule, et qu'on se sépare, divorce ou pas divorce, c'est des épreuves qui sont difficiles. Il y a des deuils, Romy a perdu son enfant, il y a des deuils, des séparations qui sont plus ou moins difficiles, il y a des personnes qui perdent un être cher qui est leur chat. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Et comment on fait pour se remettre de ça ? Voilà, comment on fait avec les débris ?
Oui, c'est ça, la pièce est sur l'amour, en effet, sur la séparation. Elle montre avant tout la fragilité d'aimer. Je pense notamment aux entretiens que l'on peut entendre d'ailleurs hein, dans le spectacle, on parlera de la mise en scène après, des entretiens avec Romy Schneider.
Oui, Romy Schneider était quelqu'un qui était à fleur de peau. On l'est tous à fleur de peau. Ensuite, on essaie les acteurs font, ce sont de grands timides, mais on fait ce métier, mais au fond pour essayer comme les oignons, ils ont plusieurs peaux, les acteurs, et nous aussi, comment on fait pour vivre dans cette vie, et comment on fait quand on a été amoureux, qu'on ne l'est plus, qu'il va falloir recommencer l'amour, y croire toujours. Voilà, c'était ça toutes mes questionnements, et je me suis rendu compte qu'on pouvait y croire, qu'on pouvait se reconstruire, qu'on pouvait aimer à nouveau. Mais comment on fait pour aimer à nouveau? Comment on fait pour réinventer l'amour?
Oui, la pièce veut aussi montrer qu'il peut y avoir un monde meilleur.
Oui, il y en a un. C'est celui qu'on va construire. On a du manque. Christian Bobin, que j'adore parler du manque. Mais voilà, comment on fait avec ce manque? Comment on fait pour le transcender? Donc l'écrivain écrit, l'acteur joue. Nous, comment on fait dans nos vies quand il y a un manque? Voilà, pour le, c'est pas le combler, mais c'est le transcender, le transmuter. Et on peut y arriver, il faut simplement l'inventer. Il faut avoir beaucoup d'imagination.
Alors vous avez écrit cette pièce contemporaine, Nous sommes septembre, qui entrecroise plusieurs sentiments amoureux, plusieurs histoires. Vous jouez d'ailleurs le rôle d'une des femmes, Romy Schneider notamment, mais également le couple, le parent,
complètement, vos parents, l'enfant. Presque à la fin, c'est presque une libellule. En fait, c'est vraiment bouger entre voilà différents. Ma mère, j'ai perdu ma mère jeune. C'est aussi comme dans les rêves. Quelquefois, dans les rêves, on ne sait plus qui est qui. Et on se construit avec ça, où on se répare avec voilà.
Oui, alors vous pouvez nous par rapport à la mise en scène, oui. Donc qui a été effectuée par Eddie Eva Clavier.
Ouais.
Le comédien Manuel Durand. L'un comme l'autre, vous êtes Flore. L'un comme l'autre, vous êtes les parents.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je les ai appelés elle et lui, mais ça aurait pu être A et B. C'est-à-dire que on est des entités, on est des figures, et puis on peut passer de l'un à l'autre. Et on sait, Agnès, combien on est porté. Enfin, moi, je sais, on est des porteurs. Le théâtre, c'est l'endroit des fantômes vivants. Donc c'est comment on devient vecteur de ma mère, de ma grand-mère, de toutes ces histoires qui ont été, et d'un coup les mots s'échappent parce qu'on est empreint de tout ça, notre ADN il est. Donc c'est ce qu'on appelle la dramaturgie quantique, c'est-à-dire que les époques se mélangent. Après l'histoire est quand même structurée, mais c'est pour se dire voilà qui on est, qui on a sur nos épaules, de quelle peau on est. Voilà, on est
ouais, et puis tous les souvenirs peut-être qui reviennent en nous,
les réminiscences,
vous avez voulu les montrer au plateau.
Exactement.
Alors elle, on va dire elle, hein, parce qu'il y a plusieurs femmes, mais on va en prendre une. Elle, en robe rouge, avec une couronne, qui m'a fait penser à une déesse romaine qui lève une branche dans le jardin suspendu.
Oui, c'est aussi le théâtre antique un peu grec, on parle d'Épidore, les acteurs, le théâtre d'Olympie. Cette couronne, c'est la scénographie de Johnny Le Bigot, qui est un artiste plasticien qui a fait aussi évidemment le décor, avec qui on a cette grande chance de travailler sur de la matière vivante. Et lui, il m'a fait cette couronne, qui transporte et à la fois les fleurs séchées. Donc il s'agit effectivement de nostalgie, de mélancolie, mais comme disait Proust, je ne me compare pas du tout à Proust, mais comme disait Proust, il disait mais les souvenirs, c'est la joie. C'est pas la réminiscence, aller ressortir les choses du passé, c'est pas quelque chose de triste, c'est au contraire les refaire vivre. Comme des graines, l'arbre se transforme, il y a les saisons de la vie, on fait partie de cycles et les choses renaissent. C'est pour ça qu'il y a de l'herbe, de la vraie herbe sur le plateau.
Oui, alors la scénographie est tout à fait étonnante, intéressante, un peu en bifrontale, vu que le public finalement est de chaque côté.
Complètement.
Le public se retrouve vraiment au cœur du spectacle, devient un peu le témoin même de ces deux personnages. Ces deux personnages devant nous qui expriment l'amour. Et puis alors il y a cette langue de gazon. Oui. Cet espace gazonné, d'ailleurs, que vous enlevez à la fin.
Oui, qui est un... Alors, sans spoiler, comme on va
non,
dire.
Non, non.
Mais c'est vrai que c'était pour moi, c'était comme un couloir, un passage, presque une piste d'atterrissage. Il y a une interview de Delon et de Romy qui est très connue comme ça sur l'aéroport. Nous parlions de Nice quand elle arrive pour tourner la piscine. C'est aussi le couloir un peu de la mort. Parce qu'Alain m'a montré les photos de Romy morte dans son cercueil. Et quand j'ai vu Romy là, je me suis, elle était apaisée. Je me suis dit, ben, les bouddhistes disent ça, que quelquefois, on, voilà, y a, c'est comme, ou les japonais disent ça, que c'est, la mort, c'est une histoire de rivage. Donc j'aimais bien cette histoire de couloir et de se dire, voilà, on est entre... Et le fait de la bifrontalité, on est face aux autres... Voilà, aujourd'hui on est vivant, c'est comme dans les rêves, et puis ensuite on s'endort, on meurt, rêver peut-être. Bon, c'est tout ce lien que je fais aussi de par mon parcours avec le théâtre shakespearien, que c'est voilà, tout ça qui est transporté à un moment de ma vie où, voilà, qui allie et à la fois poésie, à la fois aussi théâtre
onirisme.
Oui.
Et un petit peu aussi le jardin d'Éden.
Oui, oui, ah ben oui.
L'espèce de un paradis fleuri comme ça.
Voilà.
Cette pelouse et puis l'arbre au milieu.
Oui, j'ai pensé aussi à ce texte magnifique, alors très religieux, mais du Cantique des Cantiques aussi. Il y a quelque chose de. J'aime aussi beaucoup Claudel. Et puis on veut y croire. Alors après, bon, chacun a ce paradis. Est-ce qu'il est perdu? Moi, je crois pas. On peut aimer. Voilà, c'est des questions en fait. Hein. Le théâtre, on est là aussi pour. Rien n'est démontré, rien. Je pense que j'ai voulu écrire aussi sur, comme tu le disais Agnès, sur des réminiscences, des sensations, un chemin qu'on parcourt. C'est un
des
chemin.
Souvenirs, ouais. On fait une pause musicale et on vous reprend tout de suite. Hein. On reparle de Nous sommes septembre au Théâtre de la Reine Blanche dans 2-3 minutes. Hein. On fait une pause musicale, à tout de suite.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais m'envoyer.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours en présence de Flore Grimaud, autrice, comédienne, et nous parlons de Nous sommes septembre, pièce de théâtre qui se joue à partir du 30 janvier au Théâtre de la Reine Blanche. Dans le 18e, et vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime, Flore Grimaud. Donc nous parlions à l'instant de Nous sommes septembre, une pièce sur des croisements de couples, sur l'amour, sur le souvenir, comment se débarrasser de souffrances avec plusieurs couples qui s'entrecroisent, dont un couple mythique.
Comment on se débarrasse des vieux schémas aussi sur l'amour, et comment on se... Qu'est-ce qu'on fait des débris? Comment, qu'est-ce qu'on fait des cicatrices? Comment on les panse, nos blessures? Et comment on continue à avancer et à aimer, aimer l'autre? Mais c'est pas qu'un amour hétéro, normé, sexuel. Enfin, je sais pas. C'est l'amour qui est peut-être un peu plus grand. Si, voilà.
Oui. Mais on est également dans la poésie.
Oui,
beaucoup,
oui,
je trouve, oui, dans ce spectacle, dans l'onirisme, parce qu'il y a la figure de cette femme déesse dans le jardin d'Éden. On parlait tout à l'heure de mise en scène, justement, du spectacle. Voilà la question que je voulais vous poser, c'était par rapport au foulard Touareg bleu.
Du costumier Patrick Cavalier, qui a travaillé avec nous. Eh bien, Romy portait des turbans, donc Romy Schneider, cette icône, cette actrice, ma mère portait des turbans dans les années 70-80, ma maman a fait une chimiothérapie et est décédée. Il y avait une similitude aussi avec Romy qui avait un cancer du rein. Bon, je raconte ces croisements justement dans le spectacle. Et donc le turban, mais c'est aussi le turban un peu de ces idées de Madone ou de Vierge Marie, et ce bleu oui, de l'Afrique. Il y a un totem dans la scénographie de Johnny Le Bigot. On a essayé de faire appel aussi, c'est nos univers, à toute l'équipe artistique. Alors moi, c'est mon univers dans l'écrit, puisque c'est un récit qui passe par l'autobiographie, mais c'est aussi comment on va aller rencontrer l'autre, les autres, et comment on va entrer dans chaque, pour que l'intime devienne, on va dire, universel.
Oui, alors avec comme base l'amour du couple mythique Alain Delon, Romy Schneider. Il y a d'ailleurs, on parlait de mise en scène, sur un côté du plateau, un projecteur cinéma,
qui rappelle
bien évidemment l'univers.
Léandre Garcia Lamola, qui est notre éclairagiste, a fait une forêt, oui, de champs de cinéma, parce que c'est quand même aussi un texte sur les acteurs, sur quand j'ai rencontré Alain, parce que voilà, il y a eu aussi la rencontre, parce que non seulement ça a été un couple iconique pour moi où j'ai fait un transfert, mais après on s'est rencontrés, et cet homme m'a parlé de l'autre côté du miroir. C'est pour ça aussi qu'il y a cette bifrontalité. Ces acteurs qui sont, alors là en plus ce sont des stars internationales, Alain était, bon, il vient de décéder, mais Romy était des stars internationales, comment quand ils rentrent chez eux, qui ils sont, comment. Donc quelquefois je disais à Alain, mais alors Romy, Romy elle était là quand Alain on mange des crevettes et que il est là ou avec ses lunettes, enfin bon, c'était quand même Rocco. C'est toute cette dimension de c'est beau, moi j'aime les acteurs, et j'avais envie d'écrire, j'adore écrire pour les acteurs, j'ai écrit pour Manuel Durand. Alain m'a beaucoup inspiré parce que c'est vraiment un personnage, lui, au-delà d'être un phénomène. Elle aussi c'était un phénomène, ma mère était un phénomène, et pourtant elle était secrétaire dans une usine.
Oui.
Donc comme quoi on peut être star à tout
à fait. Et puis des images enfants en effet qui peuvent nous marquer, vous, Alain Delon, Romy Schneider, vous retranscrivez ça dans ce spectacle. Il y a d'ailleurs la voix en voix off d'Alain Delon, c'est vraiment un enregistrement que vous avez pu réaliser?
Oui, j'avais écrit un texte chez Isabelle Desesquelles en résidence pour une pièce jeune public, et puis Alain m'avait dit, qu'est-ce que tu fais? Tu voudrais pas écrire une pièce pour qu'on joue tous les deux? Bon, c'était très compliqué. J'avais dit, Alain, je sors d'une résidence à la maison Pure Fiction, j'ai écrit un texte qui s'appelle La fille à l'écorce argentée. C'est une petite fille qui perd son arbre, qui était son meilleur ami. Et donc, est-ce que vous voudriez pas me dire ce texte que je diffuserai dans cette pièce? Donc, c'était avant qu'il ait, parce qu'il a eu des accidents avant de décéder, des accidents neurologiques. Et donc, je suis allée chez lui, boulevard Haussmann, et très gentiment, il m'a dit, mais bien sûr, je te l'enregistre.
Formidable.
Ouais, c'était merveilleux.
Formidable, oui. On entend sa voix sur le plateau, la voix d'Alain Delon. Il y a également ses vidéos. Alors, dans la mise en scène, dans la scéno, avec de l'eau, des vagues sur le gazon.
De Thomas Bouvet, qui est un vidéaste qui a fait un travail comme ça, très très subtil, parce qu'il ne fallait pas tomber justement dans les images d'archives, mais il fait quelque chose comme une histoire, comme quelque chose d'un peu, bon, psychédélique, il y a ce mot qui me vient, mais comme dans les rêves. Ensuite, il y a le regard à un moment de, comme les yeux de Romy dans ce ce film L'Enfer de Clouzot, qui finalement n'est pas arrivé jusqu'au bout, où on voit Romy qui est un peu comme ça, il y a un travail d'image, et Thomas a fait quelque chose, voilà, pour donner une autre dimension, en fait, oui, on a voulu donner... comme tu disais, quelque chose d'onirique, de poétique, en même temps concret aussi, parce qu'il y a une, voilà, moi le texte donc part d'une autobiographie dans le Gard dans les années 80, donc c'est concret, c'est de l'herbe, c'est de la pelouse, c'est presque du terrain de foot.
Une histoire d'enfant au départ.
Voilà, c'est une histoire d'enfance, et puis après, ben, il y a tout l'adolescence, les choses qui arrivent, les séparations, je crois que c'est tout ce qu'on vit et qu'on va s'apprêter à vivre et comment on fait avec ça, ce qu'il en reste. Il y a des fleurs séchées, il y a des morceaux d'assiettes brisées, il y a des buffets de famille, il y a des, voilà. Et en même temps, on peut recoller les morceaux. Il y a, vous savez, cette histoire de ces vases japonais, que plus ils sont brisés, plus ils sont recollés, ben plus ils sont précieux.
Oui. Et cela, ce spectacle renvoie bien sûr à nos vies, hein, bien sûr à nos expériences. Hein, donc c'est Nous sommes septembre. Alors, on va citer peut-être toute l'équipe hein, du spectacle. Oui. Donc d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que le texte, on peut trouver ? Est-ce que le livre est sorti
Nous sommes septembre ? Alors il est chez l'imprimeur et il va être édité au Signe. Voilà.
Édition du Signe.
Voilà, une merveilleuse maison d'édition. Il va sortir pour le 30 janvier.
Très bien. Alors, on va donc citer tous les comédiens, enfin les comédiens, metteurs en scène. Je vous laisse les citer.
Oui,
peut-être.
Alors
nous
donc,
sommes septembre, je rappelle juste, à partir du 30 janvier, mais réservez déjà vos places, c'est une petite salle.
Donc avec Manuel Durand, mise en scène par Heidi Eva Clavier, qui est colorée, assistée par Anthony Cochin. Et ensuite, nous avons donc Johnny Le Bigot qui est à la scénographie, Léandre Garcia Lamola qui nous aide énormément en régie et qui a créé les lumières, bien sûr Thomas de Bouvet à la vidéo et Patrick Cavalier au costume.
Voilà, formidable spectacle sur l'amour, celui qui dure ou ne dure pas. Nous faire une idée. C'est au théâtre de la Reine Blanche à partir du 30 janvier. Je crois qu'il y a une rencontre le 1er février.
Oui, avec Isabelle Desesquelles qui sort son roman chez Lattès, là, qui est Histoire de la femme sauvage. Voilà. Donc, Isabelle, chez qui je suis allée écrire et qui est donc une grande romancière qui écrit justement sur la filiation, sur la famille, sur le cinéma. J'ai eu la grande chance de tourner avec son mari, le réalisateur Éric Charrière. Voilà, donc elle va venir et on va pouvoir faire une discussion autour de l'amour, du cinéma, des mots et de la figure
d'accord.
de la mère.
Aussi. Oui, parce que vous avez été inspirée, mais par un autre livre, hein, il me semble plutôt le livre Réinventer l'amour.
Oui, de Mona Chollet, qui est venue voir un spectacle que nous avons fait avec Caroline Sahuké et Delphine Billard, Spéculum, et Mona Chollet qui nous a beaucoup accompagnés. On s'est vu à ce moment-là et elle écrivait son Réinventer l'amour, son magnifique livre Réinventer l'amour, en parlant justement de toutes ces questionnements, de qu'est-ce qu'on fait avec nos conditionnements, nous en tant que filles, les garçons aussi, avec cet amour, cet amour
parfait,
avec,
soi-disant.
Exactement, et qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'il n'est pas parfait, qu'est-ce qu'on fait du premier amour, et qu'est-ce qu'on fait, avec toutes ces...
nos envies.
Exactement.
Voilà, donc c'est à partir du 30 janvier, Nous sommes septembre, le mardi et le jeudi à 21h, le samedi à 20h, Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e.
Au 1er mars.
Merci beaucoup Flore Grimaud.
Merci beaucoup Agnès, et on pense très fort à Alexandre.
Oui, Alexandre Laurent qui animait avec moi avant l'émission sur IDFM Radio.
Et bien voilà, l'émission s'achève, Toute la culture que j'aime. Vous retrouverez donc vendredi prochain le 17 janvier Marie-Laure Attinot, et puis ensuite ce sera à mon tour vendredi 24 pour mon programme culturel. Très bonne soirée, au revoir.